Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Nous voulons aborder, avec une perspective biblique, les questions qui nous touchent au quotidien.
C'est pourquoi nous poursuivons aujourd'hui notre série de discussions sur le thème de l'amitié. Cédric est de retour parmi nous pour nous en parler.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Bonjour Cédric. Et la dernière fois, nous avons examiné quelques proverbes bibliques sur le thème de l'amitié. Et nous avons découvert que la Bible dénonce l'attitude de ceux qui cherchent l'amitié de personnes influentes dans l'espoir de servir un intérêt personnel. Toutefois, la Bible nous encourage à être de bons amis, constants, loyaux et fidèles. Elle nous encourage à offrir notre amitié à ceux qui sont défavorisés et à ceux qui se trouvent dans l'adversité.
Vous avez bien retenu mes propos, Yann. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir sur d'autres proverbes bibliques qui parlent de l'amitié.
Passons donc au premier sans tarder davantage. Notre lectrice va nous le lire.
L'huile odorante et les parfums mettent le cœur en joie, mais la douceur de l'amitié réconforte le cœur.
Nous revenons ici à ce que nous avons déjà compris, à savoir que les véritables amis sont présents dans l'adversité et qui font du bien à ceux qui en ont besoin.
Oui, nous passons tous par des moments difficiles. Des émotions négatives peuvent alors nous submerger, tels le découragement et le désespoir, la peur, l'anxiété ou la tristesse. Parfois, nous avons l'impression d'être au fond d'un abîme dont nous ne parvenons pas à sortir. Alors, un ami sincère et véritable saura par sa présence et ses paroles nous aider. Il saura trouver les mots pour nous redonner courage et nous réconforter. Nous avons tous besoin de tels amis. Mais le plus important, c'est que nous apprenons auprès de nos amis. Passons alors au deuxième proverbe.
L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer.
Quel est le sens de ce proverbe?
C'est en entretenant des amitiés que nous apprenons à devenir de meilleures personnes. En fréquentant nos amis, en discutant avec eux, en partageant leurs expériences, nous nous enrichissons et mûrissons en tant qu'individus. Bien sûr, les relations marchent dans les deux sens. Nos amis peuvent apprendre de nous. Nous pouvons leur donner de bons conseils, leur faire part de décisions sages à partir de notre vécu.
Ce proverbe ne laisse-t-il pas supposer que ce résultat merveilleux s'obtienne au prix d'un effort? Car pour polir le fer par le fer, il faut beaucoup frotter.
Il est vrai qu'une amitié peut traverser des moments difficiles. Ce que nos amis nous disent peut nous remettre en question. Toutefois, les différences d'avis ou de caractère que nous rencontrons chez nos amis nous obligent à réfléchir et à mieux forger nos propres avis. Ces différences nous permettent aussi de nous enrichir et de progresser vers une plus grande maturité. D'ailleurs, cette question nous conduit à notre prochain proverbe.
Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades.
À première vue, ce verset contient une contradiction, un paradoxe, car nous n'attendons pas de nos amis qu'ils nous blessent.
En effet, mais ce proverbe évoque une situation toute particulière. Parfois, il revient à un ami de dire des choses difficiles à son camarade pour le protéger d'un danger ou pour le remettre en question sur une certaine conduite. Nous savons que notre ami peut ne pas aimer ce que nous aurons à lui dire et cela risque de lui faire de la peine. Mais si nous sommes convaincus que notre conseil servira son intérêt, nous devons alors avoir le courage de le lui donner. Il est parfois plus facile de ne rien dire et de laisser la personne poursuivre sa route et gâcher sa vie. Agir ainsi n'est pas agir en véritable ami.
Oui, je comprends maintenant toute l'importance de ce proverbe. Pensez-vous à des situations où nous devons faire preuve de courage afin de protéger un ami?
Je pourrais trouver de nombreux exemples. Votre ami commence-t-il à boire ou à toucher à la drogue? Il serait alors bon de l'avertir de ses dangers. Votre ami a-t-il de mauvaises fréquentations ou est-il tombé dans une relation adultère? Encore une fois, il faut le remettre en question. Bien sûr, il faut l'aborder avec tact et sagesse. et surtout être motivé par le désir de voir votre ami réussir sa vie. Toutefois, pour conclure aujourd'hui, je voudrais ajouter autre chose.
Allez-y.
Si nous donnons des conseils difficiles à entendre, il nous faut aussi savoir écouter les conseils difficiles que nos amis pourraient nous donner.
Ce qui peut ne pas être toujours facile.
Il est vrai que nous avons souvent du mal à accepter nos torts, à admettre que nous marchons sur une mauvaise voie. Il peut nous être difficile d'écouter ce qui nous remet en question. Parfois, si nous avons confiance en notre ami, nous devons réaliser que ce qu'il nous dit est pour notre bien, pour nous aider à réussir notre vie, et non pas pour nous détruire.
Merci Cédric pour ces précieux conseils sur l'amitié tirés du livre des Proverbes. Une fois de plus, nous constatons l'actualité de la Bible. Que l'Éternel nous aide tous à être de meilleurs amis.
La Bible se sert souvent d'illustrations, choisies à partir de thèmes de la vie quotidienne ou pris de la nature, pour nous aider à comprendre la façon dont nous devons vivre notre foi. La dernière fois, nous avons commencé à réfléchir sur l'illustration de l'arbre que nous trouvons dans le psaume 1.
Hélène va lire dans ce psaume les versets 1 à 3. Ensuite, Jafar nous rejoindra afin de continuer à expliquer le sens de cette illustration.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit.
La dernière fois, nous avons appris que celui qui aime Dieu est appelé à prospérer comme l'arbre planté près d'une source d'eau. Nous en avons conclu à partir des versets du psaume 1 que le mot « prospérer » ne fait référence ni à l'argent ni aux biens matériels. Non. Le véritable disciple de Dieu prospère en ce qu'il acquiert une plus grande maturité sur le plan de la foi. Il est comme cet arbre qui résiste à la chaleur. Il est ce chrétien qui apprend à demeurer ferme et fidèle à son Dieu, au sein même de l'épreuve. Il est ce chrétien qui, comme l'arbre produit du fruit, porte le fruit de l'esprit, le fruit d'une vie juste, pure et pleine d'amour. C'est dans la parole à présent à notre invité qui nous parlera de la manière de devenir comme cet arbre, résistant et fructueux. Bonjour Jafar.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Nous allons répondre à la question « Comment devenir ce véritable disciple qui peut porter du fruit malgré les difficultés qui s'abattent sur lui ?» La réponse se trouve dans nos psaumes lui-même. Il nous faut placer notre joie en la loi de l'Éternel et la méditer jour et nuit.
Expliquez-nous ce qu'est la loi de l'Éternel.
Il ne faut pas oublier que l'auteur du psaume, David, n'avait pas en sa possession la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui. En ce temps-là, les seuls écrits divins disponibles étaient les 5 premiers livres de nos Bibles et probablement le livre de Josué et celui des Juges. De plus, il devait exister peu de copies de ces livres, car il fallait les recopier à la main. Ainsi, leur contenu était transmis surtout de façon orale, dans les familles et les lieux de culte. Les lois qui géraient la vie sociale et religieuse d'Israël étaient issues en grande partie de la révélation de Dieu contenue dans ses écrits. C'est pour cela que David nomme cette révélation la loi de l'Éternel. Toutefois, avec cette loi, l'histoire du peuple hébreu est relatée, depuis le tout début, c'est-à-dire depuis la création du monde. Or, à partir de leur histoire, on peut beaucoup apprendre sur Dieu lui-même.
Et nous sommes alors très privilégiés par rapport à David, car nos Bibles contiennent la suite de la révélation de l'Éternel. Elles nous dévoilent ce que nous devons connaître sur le Seigneur Jésus.
Oui. Si nous remplacions dans le psaume premier les mots « la loi de l'Éternel » par « la parole de Dieu ou bien la Bible, nous en comprendrions mieux la signification. Car ce psaume nous apprend que les moments les plus merveilleux que nous pouvons vivre sont ceux où nous sommes remplis de joie en méditant ce que l'Éternel a choisi de nous révéler au travers de sa parole.
Ce psaume donc nous encourage à méditer la Bible. Mais que signifie le mot « méditer » et comment faire?
Certains pensent que la méditation consiste à vider son cœur, son esprit de tout ce qui tracasse l'homme afin de parvenir à se détendre et d'atteindre un sentiment de bien-être. Or, ceci ne correspond pas à la signification biblique de ce mot. La méditation, selon la Bible, consiste à remplir son cœur, son esprit, de ce qui est bon et juste. La méditation consiste à faire un effort pour lire la Bible, à vouloir en comprendre le sens, à désirer réfléchir sur sa pertinence dans nos vies. La méditation, c'est remplir ses pensées de la pensée de l'Éternel telle qu'elle nous est révélée dans la Bible.
Vous nous encouragez ainsi à lire la Bible. Oh, autrefois, puisqu'en Israël, peu d'écrits bibliques étaient disponibles, la foi ainsi que la révélation de Dieu étaient transmises de façon orale. Cependant, de nos jours, beaucoup n'ont pas appris à lire ou ne peuvent se procurer une Bible. Comment alors de telles personnes peuvent-elles méditer la Bible?
Voici une question importante. L'essentiel est que le serviteur de Dieu remplisse ses pensées de la vérité divine, de vérité biblique. Dans les cultures où la transmission orale demeure importante, il faut encourager les chrétiens à raconter des écrits bibliques. À force de les entendre, ceux qui les écoutent parviendront à mémoriser ces histoires, à remplir leurs pensées de ces vérités et en tireront un profit spirituel. À leur tour, ils pourront raconter aux autres ce que l'Éternel a choisi de leur révéler et en discuter au sein de leur famille ou avec d'autres chrétiens, des voisins ou des amis.
Merci Jafar. Nous avons appris que pour tenir ferme devant les épreuves de la vie, à l'image des arbres fructueux qui résistent aux intempéries, nous devons faire de l'enseignement de la Bible notre priorité. Notre fidélité dans la méditation de la parole de Dieu ne changera pas forcément nos circonstances, mais elle nous aidera à rester solidement ancrés dans la foi. Et Dieu, qui voit tout, interviendra selon ses plans d'amour envers nous. Nous continuerons notre discussion sur ce sujet la prochaine fois.
Merci à nos deux invités pour l'enseignement qu'ils viennent d'apporter. En attendant la suite de ces deux séries, nous vous remercions pour votre écoute et vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.